Un masque et des accessoires textiles écologiques et chics pour le bien de tous. Quelle belle idée! Spécialisé dans la confection de masques lavables de catégorie 1 et autres accessoires textiles, Atelier 29 ouvre le 8 juin 10 rue du Canton à Cognac. À la fois ergonomique et esthétique, nos masques allient artisanat et sécurité. 100% coton, 100% charentais, personnalisable à souhait. Pour les professionnels et les particuliers, trois modèles en 22 couleurs vous sont proposés. Atelier 29, notre savoir-faire, votre style. Info et commande dès maintenant sur atelier29.fr.
Les nuits de France Culture, vous êtes à l'écoute de la seconde nuit que nous consacrons à l'ouvreur de littérature potentielle Loulipo. Alors que l'on fête cette année les 60 ans de l'une de ses œuvres emblématiques, les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, et alors que le groupe a été mis à l'honneur ces derniers mois, le prix Goncourt ayant été décerné à son président Hervé Le Tellier pour son roman L'Anomalie. Dans la première partie de la nuit, après avoir reçu tout à l'heure le romancier Eduardo Berti, membre de l'ouvreur depuis quelques années, nous avons ainsi pu écouter Georges Perec qui en 1981 faisait l'inventaire des 50 choses à ne pas oublier de faire avant de mourir pour l'émission de Bertrand Jérôme et Françoise Tressard « Mi-fugue, mi-raisin ». Puis c'est Hervé Le Tellier au micro d'Adèle Van Rett en 2016 dans « Les nouveaux chemins de la connaissance ». Il était venu parler de Loulipo et de l'art de jouer avec le langage. Après quoi on a écouté Harry Matthews dans « Du jour au lendemain » en 1990 et à l'instant un épisode des Décraqués datant lui de 1989. Jacques Binz nous y livrait une version de la tirade de Rodrigue du Cid de Corneille sous forme d'un lipogramme en haut. Dans la seconde partie de la nuit tout à l'heure, vous pourrez écouter Le bon plaisir de Paul Fournel, une émission de 1996. Et pour conclure, on écoutera Jacques Roubaud nous parler de Paris, matériau poétique pour lui. C'était au micro d'Emmanuel Laurentin dans La Fabrique de l'Histoire en 2007. Mais pour le moment, au mi-temps de cette nuit, j'ai le grand plaisir d'accueillir Michel Audin. Bonsoir à vous Michel Audin.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être en ligne par téléphone avec nous depuis chez vous à Strasbourg. Les conditions sanitaires au moment où nous enregistrons cet entretien ne nous permettent pas, hélas, d'être ensemble en studio. Michel Audin, vous êtes mathématicienne, vous avez longtemps enseigné les mathématiques à l'Université de Strasbourg. Vous êtes aussi écrivain, l'auteur de plusieurs livres qui prennent pour matériaux parfois l'histoire des mathématiques, parfois une fois plus précisément votre histoire familiale. On se souvient du livre que vous aviez consacré à votre père, Maurice Audin, en 2013, qui s'appelait « Une vie brève » chez Gallimard. Et puis la période de la Commune de Paris, dont on célèbre cette année le 150e anniversaire, a aussi beaucoup nourri vos écrits. C'est le cas pour votre tout dernier roman qui s'intitule « José Meunier, 19 rue des Juifs ». Il est paru récemment dans la collection L'Arbalète chez Gallimard. On va revenir plus longuement sur ce livre-ci. Mais pour commencer, j'aimerais vous interroger sur votre histoire avec Loulipo. Vous êtes membre du groupe depuis 2009. Comment ça s'est passé pour vous cette cooptation oulipienne, puisque je rappelle que Loulipo est un groupe que l'on ne rejoint pas en postulant pour en faire partie, mais seulement en étant choisi par les autres membres du groupe.
Oui, il ne faut surtout pas postuler, si on veut. Alors donc, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que j'avais écrit un livre sur une mathématicienne, Sofia Kovalevskaya, une mathématicienne du 19e siècle, russe, et c'est un livre dans lequel il y avait des mathématiques, un peu de biographie, un peu d'histoire, et puis pas mal de littérature. Elle était mathématicienne, mais elle écrivait aussi des romans. Donc pas mal de littérature au sens où il y avait quelques pastiches d'auteurs comme Italo Calvino, par exemple. Voilà, donc j'ai écrit ce livre, et puis je l'avais envoyé à Jacques Roubaud. Il a dû en parler à une réunion de Loulipo après l'avoir lu, et puis ils ont proposé de m'inviter à une réunion. Donc c'est une pratique de Loulipo, on a des invités d'honneur de temps en temps à des réunions. Donc je suis allée à cette réunion avec plaisir, j'ai parlé de ce que je faisais et puis j'ai écouté ce qu'il faisait. C'était très amical et très sympathique, et puis quelques mois plus tard, ils m'ont proposé de revenir pour toujours. C'est vraiment pour toujours, hein. On ne peut pas s'en aller.
Oui, on est nommé à vie.
Hein. Ah ouais, il faut réfléchir avant d'être.
Alors, vous avez hésité ou c'était un grand oui tout de suite?
J'ai fait semblant d'hésiter, disons.
Est-ce que le fait d'entrer dans le groupe a marqué un changement pour vous dans votre parcours d'écrivain?
Oui, forcément, parce que ça n'a pas changé ce que j'avais envie de faire, mais ça a changé le fait que je me sentais une légitimité à le faire. Donc en ce sens-là, ça m'a aidé. Et puis évidemment, le fait de parler de potentialité, de forme, de contrainte une fois par mois avec des écrivains, c'est quand même très très motivant. Hein. Donc ça aide.
Dans la première des deux nuits que nous consacrions à l'Oulipo la semaine dernière, a été rappelée l'importance des mathématiques dans l'histoire de l'ouvroir. Raymond Queneau et François Le Lyonnais, ses deux fondateurs, étaient eux-mêmes de très grands amateurs de mathématiques. Un autre des membres fondateurs était mathématicien, c'est Claude Berge. Et par la suite, nombre des membres du groupe furent mathématiciens ou amateurs, disons, de mathématiques. Hein. C'est le cas de Jacques Roubaud que vous citiez, c'est le cas d'Hervé Le Tellier qui avait fait des études de mathématiques ou d'Olivier Salon notamment. Vous, qui êtes donc l'une des mathématiciennes du groupe aujourd'hui, quelle place occupent les mathématiques dans les travaux du groupe aujourd'hui?
Moi, je trouve que la place est un peu faible. En fait, quand je suis arrivée à l'Oulipo, on m'a dit il va falloir que tu nous inventes des contraintes mathématiques. Donc, j'en ai proposé certaines, mais je pense pas que après les contraintes, on propose et puis les autres disposent. Donc, je pense pas que ça a été beaucoup utilisé par d'autres Oulipiens, les contraintes que j'ai proposées. Néanmoins, il y a eu pas mal de choses mathématiques faites par Pierre Rosenstiel, que vous n'avez pas cité, qui était
oui, absolument. Qui nous a quitté il n'y a pas longtemps. Ouais.
Les contraintes que j'ai proposées n'ont pas été beaucoup utilisées pour l'instant, mais peut-être que
c'était quoi ces contraintes alors? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler?
Oui, plutôt lié à... En fait, la tradition des contraintes mathématiques à l'Oulipo, c'est des contraintes que je dirais combinatoires.
Alors expliquez, parce que...
Ça veut dire que tu utilises les nombres essentiellement.
Mm.
J'ai proposé aussi des contraintes... mon métier, c'était plutôt la géométrie que les nombres. Mon métier de mathématicienne, donc j'ai proposé des contraintes géométriques. Par exemple, vous pouvez imaginer une figure de géométrie, vous savez, comme à la petite école, avec des triangles, des droites, des... Voilà. On peut imaginer que les points qui interviennent dans la figure sont, je sais pas, des personnages ou des mots, et puis que les droites qui les joignent sont des phrases qui passent par ces mots, ou bien des relations entre ces personnages, et puis on peut imaginer d'écrire une histoire à partir d'une figure géométrique, hein, ou un poème. J'ai proposé quelques contraintes allant dans ce sens-là en particulier.
Vous avez édité il y a quelques années la correspondance entre Henri Cartan et André Veil, deux membres fondateurs du groupe Bourbaki, hein, ce groupe fondé en 1935, parmi lesquels il y avait donc notamment André Veil qui était le frère de la philosophe Simone Veil, Henri Cartan aussi donc, mais encore René de Possel, Jean Delsarte entre autres, Laurent Schwartz très vite après ensuite. Ce groupe a révolutionné les mathématiques ou la mathématique en apportant une vision nouvelle. Qu'est-ce que l'Oulipo doit au groupe Bourbaki, à votre sens, vous qui le connaissez bien? Et est-ce que c'est une influence qui perdure peut-être jusqu'à aujourd'hui?
Donc l'Oulipo doit beaucoup parce que ses membres fondateurs étaient très intéressés et très fascinés par Bourbaki à l'époque. Donc on parle des années 1960, donc c'était quand même un moment où Bourbaki était quelque chose de très important dans les mathématiques et même dans la culture parisienne, disons française. Raymond Queneau était un grand admirateur de Bourbaki. Il a été invité à un congrès Bourbaki. Enfin, bon, bref. Donc, ça a eu une influence tout à fait certaine. Jacques Roubaud a écrit des pages très belles sur les livres de Bourbaki. Donc, bon, c'était vraiment une influence importante. Bon, maintenant, le rôle de Bourbaki aujourd'hui n'est plus ce qu'il était à l'époque. Donc, moi, je vois pas ça de... Enfin bon, ça a plus trop d'influence, ni la même importance probablement.
Est-ce que vous utilisez la contrainte vous-même pour vos travaux d'écrivain? Parce que c'est pas le cas de tous les écrivains. On peut tout à fait faire partie du groupe, inventer des contraintes et puis, par ailleurs, si on est écrivain, ce qui n'est pas obligatoire pour faire partie du groupe, si on est écrivain, ne pas utiliser de contraintes. Est-ce que vous vous en servez pour certains de vos écrits?
Oui, moi j'utilise parce que bon, c'est toujours c'est un vieux débat. y a des gens qui ont de l'inspiration et puis il y en a d'autres qui doivent travailler autrement. Donc moi j'ai besoin d'un certain type de contraintes pour me mettre à écrire. Alors ça peut être des contraintes formelles ou alors pour écrire les choses d'une certaine façon. Je sais pas, par exemple j'ai écrit récemment pas mal de choses. Comme vous avez dit, lié à l'histoire de la Commune de Paris, il y a des moments où il y a des massacres, par exemple. C'est quand même pas très facile d'écrire sur des sujets pareils sans réfléchir. Enfin, je veux pas écrire les plus belles choses possibles, les plus beaux mots possibles pour rendre compte d'une réalité qui est la plus laide possible, vous voyez. Donc, j'utilisais des façons de réguler ce que je racontais à l'aide de contraintes de forme poétique, en fait.
Alors, par exemple, justement, on va parler de votre dernier livre, hein, José Meunier, 19 rue des Juifs. Dans ce livre-là, par exemple, de quelle façon la contrainte est intervenue?
Alors, au niveau vraiment contrainte, il y a un chapitre qui décrit la vie d'un homme qui est caché dans un immeuble parisien, donc 19 rue des Juifs. Il est caché là pendant 4 semaines. Il faut pas que les autres habitants de l'immeuble voient qu'il est là. Et puis, donc, il sort pas, il bouge pas. Enfin, c'est pire que le confinement. Voilà, et donc j'ai essayé de décrire ce qu'il faisait, et puis je savais pas trop comment organiser ça, et donc j'ai utilisé je me suis aidée d'une forme poétique qui est le pantoum, qui permet de faire revenir, d'écrire des énumérations, mais en faisant revenir certaines choses plus ou moins, de façon plus ou moins contrainte. Par exemple, on dit « il voit »,« il pense », puis ça revient. Vous voyez, donc là c'est la forme poétique. Donc il s'agit de poèmes dans lesquels il y a des quatrains, et puis le deuxième et le quatrième vers reviennent comme premier et troisième.
Ah oui, donc, alors justement, j'imagine que vous faites référence là à l'ouverture, hein, du livre. Faut peut-être préciser.
Non, pas du tout.
C'est pas l'inventaire, enfin ce que j'appelle l'inventaire.
Ça c'est autre chose. Oui, on peut discuter ça aussi, mais là, je pensais pas du tout à ça. Je pensais à un chapitre où le communard qui est recherché et qui est caché est enfermé dans une chambre, et donc on raconte ce qu'il fait, et je dis il a appris ce qu'il ne faut pas faire, puis il a regardé, puis il a redouté, puis il a appris, il regarde. Donc il y a chaque paragraphe en fait revient comme un peu comme les vers d'un poème.
D'accord. Parce que je voulais préciser, hein, pour donc nos auditeurs, ceux de nos auditeurs qui n'ont pas lu peut-être votre roman, de quoi il s'agit. Donc l'histoire commence par le récit d'une perquisition, hein, le 27 juillet 1871 au 19 de la rue des Juifs, donc dans le 4e arrondissement de Paris, la rue qui s'appelle aujourd'hui la rue Ferdinand Duval. Un commissaire de police, Victor Berlioz, traque trois communards, parmi lesquels Albert Theis, dont ce personnage dont vous parliez à l'instant, un ouvrier ciseleur qui est caché chez un couple de l'immeuble, les Meuniers. Et le commissaire de police ne le trouve pas. Bientôt, la femme de ce couple, donc José Meunier et Albert Theis, tombent amoureux l'un de l'autre. Ils partent ensemble à l'automne 1871, trouver refuge à Londres pour échapper à l'arrestation et au jugement qui serait certainement suivi d'une condamnation à mort pour lui. Le roman est à la fois l'histoire de cet amour et de cet exil, et puis aussi le portrait en creux de cet immeuble, hein, du 19 de la rue des Juifs et de ses habitants. Comme vous le précisez, dans le dernier chapitre du livre, la plupart des personnages et des événements du récit ont bel et bien existé, à commencer d'ailleurs par cette perquisition qui ouvre le roman. Il y a bien eu un commissaire, Victor Berlioz, qui un matin de juillet 1871 a bien perquisitionné cet immeuble situé au 19 de la rue des Juifs. Comment est-ce que vous êtes tombé, si je puis dire, sur l'histoire très précise de cette perquisition, et pourquoi en avoir fait le point de départ de ce récit romanesque?
Parce que c'est le point de départ de mon intérêt pour cette histoire. Donc, j'étais aux archives de la préfecture de police et j'ai regardé le dossier d'un autre communard qui habitait cet immeuble qui s'appelle Eldol-Clémence. Et dans ce dossier, il y avait en effet le compte-rendu d'une perquisition. Le commissaire qui s'appelait Victor-Jules Berlioz est allé perquisitionner en juillet dans cet immeuble. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il disait, dans son rapport, il écrit « Cet immeuble est un vrai labyrinthe ». Il dit du mal de la concierge qui est la tante d'un autre communard. Et donc moi, je connaissais pas l'immeuble à ce moment-là, donc je suis allée voir cet immeuble qui est un petit immeuble carré. Je suis allée aux archives de Paris, j'ai vérifié les renseignements qu'on connaissait sur cet immeuble à l'époque.
Un immeuble carré à l'angle aujourd'hui de la rue des Rosiers et de la rue Ferdinand Duval, du coup, hein, c'est ça ?
Exactement. Mmh. À l'angle de la rue des Rosiers et de la rue Ferdinand Duval, c'était déjà le cas à l'époque. Et donc, je me suis dit, c'est pas vrai, ça peut pas être un labyrinthe. Elle s'est moquée de lui, la concierge l'a menée par le bout du nez. Et j'ai voulu aller regarder un peu plus loin dans cette histoire, donc j'ai recherché un peu qui étaient les gens qui... Il y a un rapport de la perquisition, il y a la liste des habitants de l'immeuble, il y a pas mal de... Bon, il y a pas mal... Beaucoup, la plupart des choses qui sont dans le livre sont vraies, hein. Donc il y a l'agenda d'un des communards dans lequel il raconte ce qu'il fait, il y a un message codé qui se trouve à la fin être pas du tout ce qu'on croit. Voilà, il y a des tas de choses comme ça qui sont vraies. Et puis, ça semblait être vraiment un générateur d'histoire. Comme par ailleurs, je recherchais la façon dont Albertès, qui est un vrai communard qui a vraiment existé, dont Albertès s'était caché à Paris avant de pouvoir rejoindre Londres après la Semaine sanglante. Ben, j'ai essayé de recoller les deux histoires comme ça. Donc ça vient vraiment du rapport de la perquisition. Le livre vient du rapport de la perquisition, donc c'est normal qu'il commence par la perquisition.
Alors vous disiez que vous étiez aux archives de la préfecture de police. Il faut préciser que vous avez beaucoup donc travaillé sur la commune. On y faisait allusion tout à l'heure. Vous aviez notamment déjà consacré un roman à cette période qui était paru en 2017 à l'Arbalète également. Il s'appelait « Comme une rivière bleue ». Et puis en parallèle de José Meunier sortait également il y a quelques semaines un ouvrage consacré à la Semaine sanglante qui s'appelle « La Semaine sanglante, mai 1871, légendes et contes » aux éditions Libertalia, qui est une enquête sur le nombre de victimes des massacres du mois de mai 1871, hein, qui ont eu lieu il y a tout juste 150 ans cette semaine. Nombre de victimes dont vous montrez qu'il a été longtemps très sous-évalué. Vous aviez aussi publié les écrits d'Eugène Varlin, ceux d'une ambulancière de la commune, Alix Payen. Vous animez aussi un blog consacré à la commune. Pourquoi est-ce que cette période vous passionne-t-elle à ce point ? Pourquoi est-ce que vous y revenez toujours ?
C'est un moment vraiment, vraiment très intéressant parce qu'il y a des tas d'inconnus qui participent à l'histoire. Alors que d'habitude, quand on écrit l'histoire, on écrit l'histoire des rois, des ministres, des grands hommes. Et puis là, il y a des tas d'inconnus, dont pas mal sont des femmes, qui participent à cette histoire. Donc c'est vraiment très intéressant. Par exemple, dans Comme une rivière bleue, j'avais pensé au début faire un livre dans lequel il n'y avait que des personnages secondaires, justement à cause de ça. Bon, évidemment, je ne l'ai pas fait parce que c'est trop difficile pour moi, mais donc cette histoire m'intéresse à cause de tous ces inconnus et tous ces gens qui prennent la parole sans qu'on leur ait demandé, quoi. Donc je trouve que c'est très très riche comme moment. Et puis il y a un truc totalement idiot, c'est que plus j'apprends de choses, plus j'en sais, et puis plus j'ai envie de les raconter. Donc voilà, ça continue.
Le roman s'ouvre, hein, donc je le disais, par le récit de cette perquisition. Je pensais tout à l'heure que vous parliez de cette ouverture, parce que c'est un moment qui m'a particulièrement frappée, parce que vous avez recours à un procédé assez saisissant pour raconter cette perquisition et du même coup nous présenter cet immeuble et ses occupants. Vous retranscrivez la liste des locataires, des lieux, des objets établis par le commissaire, et c'est donc à travers cette sorte d'inventaire qu'on les découvre. On est immédiatement plongé par ce procédé dans la singularité de l'époque, hein, notamment à travers l'attention portée aux objets, la précision du vocabulaire que vous employez pour les décrire. On pense bien sûr beaucoup à Pérec, à cause du recours à l'inventaire précisément. Et puis, il y a là aussi, on a l'impression, comme une tentative d'épuisement du lieu. Et on pense aussi, bien sûr, à la vie mode d'emploi. Le roman de Pérec qui était construit autour de la description d'un immeuble et que vous citez d'ailleurs en référence à la fin du livre. Est-ce que Pérec était présent à votre esprit en écrivant ses premières lignes notamment?
Oui, bien sûr. C'est quand même un roman d'immeuble, donc on ne peut pas écrire un roman d'immeuble sans penser à d'autres romans d'immeuble. En l'occurrence, là, il y a certainement La vie mode d'emploi, peut-être aussi Pobouille de Zola et certainement aussi Le journal d'Anne Frank. Oui, donc bien sûr, j'ai pensé à Pérec et puis en même temps, en faisant la liste des objets qui sont des choses qu'on trouve dans cet immeuble, je me suis aperçue que cette liste est complètement disjointe de ce qu'on voit dans la vie mode d'emploi. C'est vraiment pas les mêmes objets. En 100 ans, les choses avaient changé. Pour être vraiment sûre, j'ai comparé un autre roman de Pérec qui est Les choses et c'est exactement pas ces choses là, donc j'ai trouvé que c'était une autre sorte de chose. Et Pérec est présent, et d'ailleurs il y a quelques clins d'œil qui sont à Pérec en particulier. Je l'ai passé systématiquement parce que ça serait lourd et ça serait impossible à lire, mais il y a une partie des vêtements qui sont répertoriés, qui commencent tous par la lettre C, qui est c'est juste un ou deux paragraphes, c'est pas très long.
La lettre C qui est...
Parce qu'il y a un texte de Pérec bien connu qui est comme ça. Ça commence à comme ça, cinq commissaires.
Ah oui, d'accord.
Les mots commencent par la lettre C. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit truc visible où il y a un clin d'œil de ma part à Pérec. Mais oui, bien sûr, la tentative d'épuisement, c'est quelque chose que je dois. Du moins, le fait d'être capable d'écrire ou de vouloir écrire des tentatives d'épuisement, c'est quelque chose que je dois opérer, ça, il n'y a pas de doute.
Cette scène, parce qu'elle se passe dans le quartier juif, de même que beaucoup de scènes du roman, bien sûr, et puis parce que beaucoup des habitants de l'immeuble et protagonistes de votre histoire sont juifs, parce que aussi c'est une histoire de cash, de trac, de faux papiers à un moment, elle évoque aussi une autre période de l'histoire, celle des rafles effectué par la police française sous le régime de Vichy. Il y a là comme un télescopage pour le lecteur. On ne peut pas s'empêcher de penser à cet autre moment historique. Est-ce que c'était une association qui était présente à votre esprit?
Oui, bien sûr. On ne peut pas écrire un livre dont le titre au début devait être 19 rue des Juifs, puis j'ai un peu hésité quand même. Donc on ne peut pas écrire un livre qui s'appelle 19 rue des Juifs sans penser à ça. Surtout que la façon dont il se cache et la façon dont le commissaire croit que peut-être il se cache, c'est vraiment en référence au journal d'Anne Frank. Donc on ne peut pas, on peut pas éviter ça, même si la rue des Juifs ne s'appelait plus comme ça dans la période de Vichy, puisque
elle a été débaptisée au moment de l'affaire Dreyfus.
Débaptisée dans un grand moment antisémite qui était l'affaire Dreyfus.
C'est les anti-Dreyfusards qui voulaient la débaptiser à ce moment-là, c'est ça
Absolument. Il faut aussi penser que l'époque 1871 et un peu après où se passe le livre, c'est quand même une époque où en Europe on disait heureux comme un juif en France. Donc c'est pas une période antisémite du tout. D'ailleurs, ils vivent en bonne intelligence dans l'immeuble.
Oui, on le sent dans les rapports entre les personnages du roman.
Oui. Voilà, donc oui, bien sûr, j'ai pensé à ça, bien sûr, c'est pas neutre d'écrire 19 rue des Juifs.
Oui. Dans le livre...
Vous avez dit que c'était au coin de la rue des Rosiers, il faut savoir que c'est l'immeuble qui est en face de l'autre coin de la rue Ferdinand Duval et de la rue des Rosiers, c'est là où il y avait le
restaurant Goldenberg. Dans le livre que vous avez consacré à votre père, Maurice Audin, dont je rappelle qu'il est mort en 1957, à l'âge de 25 ans, après avoir été arrêté au cours de la bataille d'Alger, torturé et tué par l'armée française, comme le président Macron l'a reconnu au nom de l'État français il y a 3 ans seulement, en 2018. Dans ce livre qui s'intitule « Une vie brève », vous rappeliez que vous aviez écrit une biographie sur le mathématicien Jacques Feldbau, déporté parce que juif à Auschwitz, qui a survécu à sa déportation au camp et à son évacuation, mais qui est mort hélas juste avant la fin de la guerre. Et vous disiez que ce travail sur l'histoire de Jacques Feldbau avait peut-être été pour vous un pas vers le récit sur votre père. Vous écriviez, je me permets de vous citer, « Autour des millions de douleurs individuelles qui ont suivi les disparitions de millions de personnes dans les camps nazis, parmi lesquels des hommes et des femmes aussi différents que Sirla Choulevitz, la mère de Georges Perec, Margot et Lucien Vidal-Naquet, les parents de Pierre, Dora Bruder ou Jacques Feldbau, il y a un deuil collectif, une mémoire historique qui nous ont fait défaut, dont je ressens toujours le manque. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce deuil collectif, cette mémoire qui fait défaut, même si bien sûr les événements sont très différents, chacun est singulier, mais est-ce que malgré tout cette mémoire qui fait défaut, on ne la retrouve pas aussi dans le cas de la Commune et dans le cas de ces disparus ?
Ah oui, bien sûr, je ne peux pas parler de disparus sans penser aussi à cette histoire, mais bon, c'est plus facile de parler de la Commune que de parler de la guerre d'Algérie pour des tas de raisons. Mmh. Et puis au niveau personnel, c'est aussi plus facile justement comme je le disais dans la citation que vous avez lue, parce que vous voyez, moi je suis française, mon père a été tué par l'armée française, c'est très très singulier. Alors qu'en fait, être un enfant de disparu de la semaine sanglante, c'est beaucoup moins singulier. C'est plus collectif. On peut l'être ensemble. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc c'est exactement ce que je disais dans cette citation que vous avez lue.
Oui, c'est aussi l'ancrage du coup peut-être biographique chez vous de votre intérêt pour cette période spécifique de la Commune.
Oui, bon, après, j'ai été élevée dans une famille communiste, donc ça faisait partie du patrimoine génétique de parler de la Commune, bien entendu, bien sûr. Et puis c'est tellement plus facile d'aller aux archives pour étudier la Commune que pour étudier la guerre d'Algérie. Je ne veux pas faire un commentaire sur les accès aux archives dont les historiens sont privés.
Oui, reste très, très difficile, contrairement aux promesses.
Oui, oui. Bon, alors, pour la Commune, d'abord, après, quand on écrit sur la semaine sanglante, on s'aperçoit que, dès le début, il a été prévu qu'on trouve pas tout dans les archives. Donc, ça a été falsifié, bien sûr, dès le début. Mais bon, n'empêche, on a accès à toutes les archives.
Vous mêlez dans ce roman des personnages donc inventés par vous, même si leurs noms existent dans les archives. Si vous avez glané des éléments, vous inventez une partie de leur histoire. Et puis des figures historiques, plus ou moins connues d'ailleurs. Vos deux personnages principaux croisent notamment dans leur exil londonien de nombreux membres de l'Association internationale des travailleurs, Eugène Varlin, Léo Frankel, Charles et Jenny Longuet, qui était la fille de Karl Marx. C'est intéressant parce que ces personnalités, finalement, si on n'est pas très familier de l'histoire du mouvement ouvrier ou de l'histoire de la Commune, elles sont assez peu connues. On connaît mal leur histoire. Et le roman est aussi l'occasion de les découvrir. Et puis, on a l'impression, dans le récit, qu'ils sont finalement, du coup, sur le même plan que les autres personnages, les personnages purement inventés, disons. Il y a une forme de non-hiérarchie entre eux. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous aviez réfléchi, dont vous étiez consciente ?
Mais en fait, il n'y avait pas tellement de hiérarchie. Ils étaient tous ensemble, en fait. Les réfugiés à Londres, ils ont été accueillis par Marx et Charles Longuet, et que c'était un réfugié, il a effectivement épousé sa fille et Albert Hess, qui était un ouvrier bronzier, il était effectivement témoin de Charles Longuet à son mariage avec la fille de Marx. Donc, ils étaient vraiment très très proches. Et en fait, tous les personnages qui sont dans le livre ont vraiment existé. Le seul problème, c'est José, c'est cette femme. Le problème, c'est que les hommes, on sait ce qu'ils ont fait, mais les femmes, on ne sait jamais. Donc je veux pas déflorer le livre ni sa fin ni mais bon là, tous les personnages sont des personnages qui ont vraiment existé.
Oui, et c'est son destin à elle que vous éclairez tout particulièrement.
Oui, mais autrement tous les hommes, tous les réfugiés sont des personnages qui ont vraiment existé. Et bien, je veux juste corriger un tout petit truc que vous avez dit.
Oui, je vous en prie.
Pas Varlin à Londres, puisque Varlin, il a été tué avant.
Oui, non, pardon, c'est juste qu'il est... Oui, vous avez raison de me corriger. Il est évoqué à de nombreuses reprises, mais bien sûr, il ne croise pas à Londres. Oui, tout à fait. Il y a une attention très singulière aussi portée au lieu hein, dans ce roman. Vous décrivez avec beaucoup de précision différents endroits parisiens, mais aussi londoniens. On a vraiment l'impression de voir s'animer comme ça, sous nos yeux de lecteur, le Paris de l'époque. Comment est-ce que vous avez fait pour réussir à décrire ces lieux de manière aussi précise? On imagine qu'il y a dû avoir pour vous un travail de documentation considérable, hein, Michel Audin.
Oui, j'utilise la littérature du 19e siècle comme source documentaire, donc et puis je lis beaucoup de journaux, et journaux illustrés notamment, pour la description. Il y a un moment une description de ce qui se passe en 1880 quand les réfugiés reviennent de Londres, et là j'ai vraiment utilisé les journaux illustrés de l'époque. J'ai utilisé pas mal de littérature, de romans du 19e siècle, et pour des choses que je connais pas, parce que Paris je connais bien, mais Londres je connais beaucoup moins bien. Pour la description de Londres, j'ai beaucoup utilisé les promenades dans Londres de Flora Tristan, qui est une écrivaine fabuleuse qui a raconté ça dans le courant du 19e siècle. Et vraiment, ça m'a été très utile pour décrire les quartiers misérables de Londres dans lesquels vivent ces gens. Voilà, donc oui, j'ai utilisé beaucoup la littérature. J'utilise la littérature aussi comme source documentaire.
Flora Tristan, dont on avait rediffusé récemment une émission à son sujet dans le cadre d'une nuit des féminismes. J'invite les auditeurs à la retrouver en ligne. Merci beaucoup, Michel Audin, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le titre de ce roman, José Meunier, 19, rue des Juifs, chez Gallimard. Et je signale aussi donc aux éditions Libertalia, La semaine sanglante, mai 1871, Les Légendes et contes, et je renvoie aussi vers le blog que vous animez sur la Commune de Paris. Toutes ces références, ainsi que les autres que nous avons citées, seront bien sûr à retrouver sur le site internet de l'émission. Pour l'heure, place donc à la suite de notre programme Oulipo Potable. Dans un instant, le bon plaisir de Paul Fournel, et puis le Paris de Jacques Roubaud, un entretien avec le poète mené par Emmanuel Laurentin dans la Fabrique de l'Histoire, c'était en 2007. Ces émissions, comme l'ensemble de celles diffusées au cours de la nuit, sont bien sûr à retrouver sur le site internet de France Culture ou encore sur l'application Radio France.